Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble, en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe de C'est à vous. Salut à tous les quatre.
Bonsoir Anne-Elisabeth.
Mohamed, votre story ce soir.
C'est une séquence qui a ému hier une femme en fauteuil roulant qui interpelle la Première ministre Elisabeth Borne sur le sort des personnes handicapées. La réponse de la Première ministre a choqué. Elisabeth Borne répond ce soir dans C'est à vous.
Et elle reconnaît une maladresse. C'est à suivre dans votre story, Mohamed. Patrick, votre édito ce soir.
Je vais faire un petit point sondage sur les législatives. À 4 jours du premier tour, les sondeurs donnent la majorité présidentielle et la NUPES de Jean-Luc Mélenchon au coude à coude en tête, sans certitude de majorité absolue pour la majorité présidentielle, pour l'instant pour le second tour, mais on verra qu'il faut prendre ses projections avec beaucoup de prudence.
Et la droite LR ?
Elle est dans les choux.
Elle est dans les choux, on en parle avec Rachida Dati.
C'est pas mal, hein. Les garçons naissent dans les choux, c'est la renaissance.
Rachida Dati, maire LR du 7e arrondissement de Paris, non pas maire de Paris tout court, comme je l'ai énoncé, comme je l'ai dit tout à l'heure par erreur. Ben, je suis allée trop vite,
madame. Vous êtes allée trop vite. Encore un peu de temps.
Ah, voilà, faut pas insulter l'avenir. Rachida Dati, merci, bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Mathieu, dans le 5 sur 5.
On va parler de contraception. Les jeunes filles, les 15-24 ans, prennent de moins en moins la pilule. On va essayer de savoir pourquoi, les interroger, puis parler alternative aussi. Ce sera dans le 5 sur 5.
Pierre, votre œil.
Prince, le prince de la musique, aurait eu 64 ans hier et à cette occasion sort pour la première fois en DVD, CD, vinyle, le fameux concert, le plus grand concert de Prince en mars 85 à Syracuse, près de New York. Je vous le présenterai tout à l'heure. Ça devrait faire plaisir à nos invités.
Nos invités qui sont deux guitaristes exceptionnels. La première s'appelle Gail Ann Dorsey, c'est la bassiste. Elle a été longtemps la bassiste de David Bowie ou Lenny Kravitz. Et là, désormais, elle accompagne sur scène Mathieu Chédid. Ensemble, ils forment un duo du tonnerre dans le nouvel album de Mathieu Chédid. Et sur scène, ils sont nos invités ce soir, ainsi que Julie Gayet qui préside un festival de musique de film à Rochefort. Évidemment, en hommage à ce chef-d'œuvre, cette comédie musicale signée Jacques Demy et Michel Legrand. Julie Gayet sera notre invitée du dîner également. Dîner préparé ce soir par Romain Moreau, chef du restaurant Le Momem à Paris. Hier, on avait votre associé qui s'appelle Monsieur Amen.
Exactement.
Donc, Amen et Moreau, ça fait Momem.
Exactement, Momem.
Et vous nous proposez un tartare de veau ce soir.
Exactement, je vous propose une dégustation de tartare de veau accompagnée de palettes de pommes de terre croustillantes avec une crème légèrement fumée et fermentée, une petite salade d'herbes et un coulé de pequillos.
Merci voilà. Beaucoup, chef. Merci. À tout à l'heure. Merci. Des choux ce soir également au menu de C'est à vous. Les choux dans lesquels se trouve la droite républicaine à 4 jours de législative. Entre autres dans l'édito de Patrick Cohen. Nous sommes donc à 4 jours du premier tour des élections législatives, un scrutin qui laisse les Français largement indifférents.
Et qui va pourtant déterminer la politique de la France pour les 5 prochaines années, mais qui ne passionne pas les foules et même qui les intéresse de moins en moins. 70% d'électeurs intéressés d'après la dernière vague Ipsos, 4 points de perdu en un mois et environ 46% des Français inscrits sur les listes électorales qui se disent certains d'aller voter, encore moins qu'il y a 5 ans, 48%. Attention, ce n'est pas une prédiction, les électeurs se décident de plus en plus tard, parfois le dimanche matin, le jour du vote, on peut observer un regain de participation par rapport à ce que disent les sondages. À noter aussi un clivage de génération, plus de 60% de votants chez les plus de 60 ans, moins de 40% chez les moins de 50 ans.
Pourquoi un tel désintérêt ?
Il y a un mouvement croissant d'éloignement à la politique et plus encore à l'offre politique. On avait doté à la présidentielle le poids du vote utile ou du vote stratégique, le fait que moins de 50% des Français ont voté au premier tour pour un candidat, pour le candidat qui correspond à leur préférence partisane. Et c'est encore le vote contre qui devrait dominer les législatives. Jean Finkelstein, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, fait remarquer dans son commentaire de sondage dans Le Monde que toutes les formations politiques, toutes suscite davantage d'antipathie que de sympathie. Il n'y a aucun désir majoritaire, même pour le président réélu. La polarisation, l'opposition réflexe, le rejet par principe dominent le débat public. Et puis l'autre grande raison du désintérêt, c'est que la plupart des Français considèrent que l'élection est déjà jouée en faveur de la majorité présidentielle. Ils ne sont que 21% à pronostiquer une victoire de Jean-Luc Mélenchon et seulement la moitié de ses propres électeurs.
Pourtant, les sondages montrent que l'issue est bien plus incertaine.
Oui, la majorité présidentielle et la NUPES sont au coude à coude dans les intentions de vote, aussi bien pour Ipsos, l'enquête la plus fiable sur un très large panel, que pour l'IFOP, 28, 27,5 ou 25, 26. Voilà, c'est pour les deux formations en tête. C'est le premier enjeu du premier tour. Qui sortira en tête? Qui pourra se prévaloir d'être la première force politique du pays? Derrière, le RN se maintiendrait à 20 ou 21%. Et donc, comme annoncé, la droite LR serait dans les choux. 11%, c'est deux fois moins qu'il y a 5 ans.
Et pour les sièges à l'Assemblée?
Alors, les calculs sont compliqués, les projections très fragiles, les sondeurs le reconnaissent. Les intentions de vote du premier tour dessinent un grand nombre de duels de second tour entre la majorité présidentielle et la gauche NUPES. Et donc, la semaine prochaine, une campagne polarisée sur un enjeu clair. Voulez-vous qu'Emmanuel Macron ait les mains libres avec une majorité à l'Assemblée et Elisabeth Borne à Matignon, ou bien qu'il soit contraint à une cohabitation avec Jean-Luc Mélenchon et une majorité de députés gauche insoumise? Là-dessus, Ipsos a posé la question aux Français. 54% des électeurs souhaitent qu'Emmanuel Macron puisse appliquer sa politique, 45% que ce soit Mélenchon. Voyez les projections, on les a vues rapidement tout à l'heure. La majorité fait la course en tête, mais désormais sans certitude d'obtenir une majorité absolue de 289 députés. Mais répétons-le, et plus encore avant le premier tour, ces fourchettes sont à prendre avec beaucoup de prudence.
Les sondeurs se sont trompés dans le passé. Hein.
Oui, en 97, après la malencontreuse dissolution de l'Assemblée par Jacques Chirac, la droite RPR-UDF recueille 37% des voix, la gauche plurielle 43%. C'est à peu près ce que voyaient les sondeurs, mais aucun sondage d'avant le premier tour n'avait projeté que la gauche devienne majoritaire à l'Assemblée. Ça a été l'effet des 76 triangulaires imposé par le Front National, qui a grandement perturbé le jeu. Cette fois, on sait, à cause de l'abstention ou de la
faible participation, il y aura moins de triangulaires.
Voire pas du tout. Il y a 5 ans, il y en a eu une seulement. Et là, avec moins de 50% de participation, il est probable qu'il y ait très très peu de triangulaires.
Un mot d'abord, Rachida Dati, avant d'en venir au score pronostiqué par les sondeurs pour votre parti, sur le désintérêt des Français pour cette élection qui est essentielle et pour la politique en général et ce vote compte qui a été massif à la présidentielle.
Mais si j'écoute votre édito, les jeux sont faits.
Mais non.
Bah si, vous dites tout va jouer entre la NUPES et La République En Marche, comme si on n'existait pas. Moi, je considère que la présidentielle, c'est une élection. Emmanuel Macron a été élu. Il a été élu grâce à un vote utile. Et un vote utile, pas, il n'a pas été élu sur un vote sur un projet, il a été élu sur un vote, sur un barrage à l'extrême droite, pas sur un projet. Et la législative, je trouve que c'est un autre type d'élection. Pourquoi? Parce que le vote utile, pour la législative, c'est le vote utile à chacun. C'est pour ça que le député, il y a un enjeu local et un enjeu national. On n'est pas du tout dans la même configuration, je pense. Et c'est pour ça que quand vous dites ça va jouer entre la NUPES et tout, vous faites en global. D'abord, les législatives, autant la présidentielle, c'est la même personne partout en France. Là, le candidat qui est dans le Nord n'est pas le même, n'a pas le même rapport
avec les électeurs.
Aux électeurs. Par exemple, les députés parisiens, c'est pas du tout le même rapport aux parisiens.
Ça veut dire que vous annoncez une surprise, comme Christian Jacob l'a dit.
Ce que montrent les sondages, c'est que les électeurs connaissent peu leurs députés.
Oui, vous avez raison.
Beaucoup moins de connaissances du député, de proximité qu'auparavant.
Vous vous rappelez, ce que vous dites est tout à fait juste. Et moi, je ne vais pas aller faire oui, super, on est les meilleurs, attendons le jour du vote. Non, c'est sûr qu'on ne va pas avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Voilà. Ça, c'est certain. Je dis simplement qu'il faut laisser les Français choisir. Et là, ce qui monte sur les 3 derniers jours, on va nous refaire la même chose que pour la présidentielle, c'est attention, 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 les extrêmes sont à la porte de l'Assemblée. Mais ce n'est pas du tout pareil, l'Assemblée nationale. Mmh. Les extrêmes n'auront pas la majorité absolue à l'Assemblée. Et donc, moi, il faut laisser les Français choisir. Et il y a un ancrage local. Moi, pourquoi je défends ma famille politique? Moi, je pense, je l'ai toujours dit, la France est majoritairement à droite dans ses aspirations. Je ne dis pas dans ses aspirations LR. Je pense dans ses aspirations et les valeurs. Que veulent les Français? Si je faisais un petit sondage autour de la table, vous voulez de l'autorité, de la sécurité, de la qualité de vie, la réduction des inégalités, une liberté.
Donc le problème de la droite, c'est l'incarnation.
Le problème de la droite, c'est d'être clair, dans ce qu'on offre. Par exemple, les élections législatives à Paris. C'est très différent qu'en province. Pourquoi? Parce que là, moi, je fais campagne, évidemment, pour mes candidats. Je prends sur le candidat que nous avons sur ma circonscription. Moi, je suis présidente de groupe à Paris. Nous sommes le groupe majoritaire à Paris. Nous avons plus d'élus que Mme Hidalgo. Et donc, je souhaite...
Au conseil de Paris, pas en nombre de députés. De
non, je parle en termes d'élus. Laissez-moi terminer la phrase, vous allez comprendre. Virgule, Monsieur Cohen, virgule. Donc, nous sommes le groupe majoritaire à Paris, au Conseil de Paris, virgule. Et donc, j'ai besoin de députés à l'Assemblée pour amplifier ce combat que nous menons à Paris. Et donc, nous, on a besoin de députés de Paris pour faire quoi? Parce que demandent les Parisiens? Que la ville soit mieux gérée, plus propre, avec plus de qualité de vie. On a besoin que les Parisiens votent pour le maire directement. Ça, il faut que ça change. Il faut que nous ayons une police...
Vous voulez changer la loi PLM.
Bien sûr, la police municipale armée. Vous savez que Paris, c'est la ville la plus criminogène de toute la France métropolitaine. C'est exponentiel l'augmentation de la délinquance. On a une police municipale qui a été adoptée grâce à nous, grâce à la droite au Conseil de Paris. Et nous souhaitons qu'elle soit armée.
Vous souhaitez qu'elle soit armée?
Oui, vous avez vu le niveau de délinquance. Vous avez vu ce qui se passe tous les jours.
Malgré ce qui s'est passé samedi
Mais justement,
à Paris.
Après, on va en parler. Après, il y a une question de formation. Moi, je veux bien qu'on discute de ces sujets. Ces sujets sont trop graves pour être caricaturés ou réduits à la phrase de M. Mélenchon. Moi, je
il
ne commente
la police
pas.
Tue.
Oui, mais je ne suis pas là pour commenter, en tant que responsable politique, la phrase de M. Mélenchon. D'abord, il incarne. Il y a beaucoup de jeunes qui votent pour lui. Donc, ce qu'il dit, c'est approuvé par quand même beaucoup de gens, et notamment la jeunesse, et ça m'inquiète. Et donc, nous avons un sujet sur la sécurité. Et moi, je pense que, par exemple, sur la police municipale à Paris, elle doit être armée. Le gouvernement, le Parlement, on peut porter un amendement pour obliger les villes de plus de 10 000, plus de 100 000 habitants, que la police municipale, avec un taux de délinquance aussi élevé, puisse être armée, qu'on puisse avoir cette possibilité-là. C'est pour ça que nous avons besoin de députés à l'Assemblée nationale. Moi, je me bats pour ça. Vous savez, tout à l'heure, vous dites, vous avez raison. Moi, je vois, je fais campagne, les gens ne sont pas intéressés, ils ne connaissent même pas la date de l'élection. Et donc, c'est aussi notre responsabilité, c'est aussi votre responsabilité de dire qu'ils sont tous nuls, ils sont tous nazes, ils sont tous machins, puis ils sont dans les choux, puis ils n'y arrivent pas, et puis ceci, pourquoi se déplacer?
Vous n'êtes pas dans les choux à 11% d'intention de vote?
Je préfère faire ma grasse matinée. Eh bien, on est dans les choux quand on dort et on ne va pas voter. On est dans les choux quand on est des
quand
élus, on n'est pas sur le terrain.
Est-ce que votre parti est suffisamment monté au créneau depuis le 10 avril dernier?
C'est pour ça que là, on fait une campagne. Vous avez remarqué que là, il y a M. Mélenchon en national et puis ou La République En Marche, M. Macron. Enfin, je ne sais pas sur quoi on fait campagne. Mais
Marine Le Pen pour le Rassemblement National.
Exactement. On fait campagne, vous avez remarqué, on fait des campagnes très locales. D'abord, on a des ancrages. On est le parti le plus ancré. Il ne vous a pas échappé qu'on a gagné les départementales, majoritairement les villes pour les municipales. On a gagné massivement les régionales. Moi, je demande aux Français de faire le choix de ce qui est utile pour eux. Sécurité, pouvoir d'achat, liberté, réduction des inégalités, sécurité. Voilà. Donc ça, même y compris sur l'écologie, tout le monde, là, la gauche se gargarise l'écologie. Premier acte écologique à Paris, déjà qu'on nettoie la ville. Deuxième acte écologique, qu'on dératise la ville. Troisième acte écologique, eh ben, si on veut de la mobilité, mettre des vélos, qu'on répare la voirie. On n'a même plus de taux d'accidentologie, tellement évidemment il y a des accidents avec les vélos, tellement la voirie est défoncée. Donc voilà, donc ça parle aux gens.
Là, voilà. Oui. Là vous refaites la campagne municipale parisienne, mais
ah bon, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, voter pour le maire.
En 2026, non, vous
voter
le savez.
Pour voter pour le maire, c'est pas un enjeu législatif. Armer la police municipale, ça peut pas être un enjeu législatif.
Ah si si ça.
Ah voilà.
Ça peut.
Alors c'est
le nettoyage des rues et le
réparage. Monsieur Cohen, non, mais là on est si. On est d'accord.
Non, mais ce n'est pas majoritairement ce qui se décide à l'Assemblée. À l'Assemblée nationale, ce sont des lois portées par les députés ou proposées par le gouvernement.
Alors, je vous parle de Paris, je vais essayer de vous faire un troisième si. Paris est en faillite. Vous savez pourquoi elle n'est pas sous tutelle, la ville ? Parce qu'il y a un potentiel fiscal qui est encore important. C'est-à-dire, nous tous, on peut encore payer des impôts, donc on n'est pas sous tutelle. Bah, peut-être que ça, il faut que ça s'arrête. On n'est pas, enfin, on n'est pas à fond perdu. Si seulement on payait des impôts, vous êtes content de Paris ? Alors moi, je veux bien payer des impôts.
Mais là, vous vous adressez voilà. aux électeurs parisiens pour ces prochaines législatives.
Oui, mais c'est pareil.
Mais vous
non, mais
pensez que ça
province,
va concerner les électeurs
en province,
partout en France ?
Bah, non, parce que tout va bien dans le reste de la France. Sécurité géniale. Tout va bien. Il n'y a pas de rodéo, il n'y a pas les refus d'obtempérer, il n'y a pas des violences urbaines. Les territoires ne sont pas fracturés. Regardez l'état de l'école, publique. Puis là, maintenant, l'école du futur, c'est l'école à la carte. C'est ça la République ? C'est ça la République du mérite ? C'est pas à la carte. C'est pas à la carte, monsieur Cohen. C'est trop grave ce qui se passe en France aujourd'hui. Je vous le dis. Et là, c'est pas un truc de je défends les LR et mon petit bout de truc. C'est que c'est trop grave ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Donc moi, j'appelle les Français à se mobiliser. Le vote utile, il est utile pour eux. Monsieur Macron, c'est bon, il a bénéficié du vote utile et est élu. Passons au vote utile pour chacun d'entre nous. L'état de la France nécessite la mobilisation des Français. Alors peut-être qu'on n'intéresse pas, mais moi je souhaite qu'on intéresse les Français. Moi je ne suis pas rentrée en politique pour faire genre.
Les Français voilà. peuvent voter utile, par exemple, lorsque la Première ministre annonce hier une revalorisation des pensions de retraite en juillet. Donc si le gouvernement obtient une majorité, une aide pour les plus modestes en septembre. Ce matin, Bruno Le Maire a promis que l'inflation n'impacterait pas la feuille d'impôt des Français, pas que des Parisiens.
Il est hors de question que des salariés, des Français, payent plus d'impôts sur le revenu ou rentrent dans le barème de l'impôt sur le revenu à cause de l'inflation. Donc nous allons indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation pour éviter justement ces effets, comme vous dites très bien, de seuil où des gens qui ne paieraient pas l'impôt sur le revenu avant à cause de l'inflation, des augmentations de salaire, basculeraient dans l'impôt sur le revenu ou basculeraient dans une tranche supplémentaire.
Concrètement, ça veut dire que vous augmentez les seuils.
Exactement, nous augmentons les seuils du montant de l'inflation.
La France, le gouvernement soutient le pouvoir d'achat des Français avec ces mesures-là, mais en creusant la dette. C'est ce que David Lisnard dénonçait ce matin sur France Info, le maire de Cannes, oui. en disant qu'Emmanuel Macron fait du social-étatisme.
Non, mais on peut faire des grands mots et des grands principes, mais les annonces, elles vont être financées avec quelque chose. Donc si c'est la dette, c'est des impôts. Donc il faut qu'on dise la vérité. Et puis moi je vais vous dire, une vision pour la France, une vision économique de la France en pays de crise, on est en économie, j'allais dire de guerre, on est en économie de crise, on est quasiment en économie de guerre. C'est une vision pour la France. C'est quoi les années à venir ? C'est pas des petits bouts de chèques. Parce que les chèques, ils vont s'arrêter à un moment donné. Et puis les chèques, on parlait des législatives, bah, il faut quand même une assemblée qui décide, il va y avoir un débat parlementaire. Ce qui est annoncé, est-ce que ça va être adopté ? Est-ce que ça va être adopté ? On va avoir un débat sur le sujet. Mmh. Et donc c'est facile d'annoncer. Ils sont ministres, ils annoncent. Mais comme si c'était déjà fait. Non, ça n'est pas fait. Non, on n'enjambe pas une élection. Donc je dis à M. le maire, à Mme Borne, vous n'êtes pas encore élu. Il y a un débat parlementaire. C'est l'argent des Français. C'est la vision des. C'est l'avenir de la France. Et donc aujourd'hui, tout ce qui est annoncé, moi aussi, je peux tout vous annoncer. Hein. Voilà. Que demain, Paris sera propre. Je peux aussi vous l'annoncer.
Justement Paris.
Mais j'ai pas les moyens.
On revient justement à Paris, une ville qu'a retrouvé Anne Hidalgo après sa campagne présidentielle, ce que vous n'avez pas manqué de souligner avec une ironie très sérieuse au dernier Conseil de Paris.
Ces 12 derniers mois, votre taux de présence en séance dépasse à peine les 20% et ne cesse de décroître. Paris vous ennuie. Oui, les Parisiens vous ennuient. Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%. Oui, ça fait mal. 1,7%.
20 000 voix.
Bah oui, 20 000 voix.
Eh oui,
ça fait mal.
Je ne sais pas si c'était un rappel au règlement et ça m'avait échappé que vous aviez gagné une élection. Mais je donne la parole à Patrick Bloch pour vous répondre.
On n'écoutera pas Patrick Bloch tout de suite.
Juste une petite... Pierre, oui, si vous me permettez. Pardon, je vous appelle Pierre.
Je vous en prie.
Monsieur Lescure.
Madame.
Juste, Aline, il ne m'a pas échappé que vous aviez été élue. Moi, toutes les élections, 2008 à ce jour, j'ai été élue sur mon nom. Et la dernière élection, malgré le Covid, je suis la seule maire à avoir été élue au premier tour sur Paris-Lyon-Marseille. Madame Hidalgo, dès lors où elle s'est présentée sur son nom à Paris, elle a toujours perdu les élections. Elle a été obligée d'aller dans le 11e. Et ne pas être élue sur son nom dans le 11e, elle est passée au deuxième tour et elle n'était pas tête de liste. Elle n'a jamais été élue sur son nom. Le jour où elle s'est présentée sur son nom, 1,7%. Voilà.
C'est un peu un référendum pro ou anti-Hidalgo, les législatives à Paris pour vous ?
Là, elle n'est plus là du tout. Donc quand elle sera de passage à Paris, en voyage officiel, peut-être que vous l'inviterez. Et donc,
elle n'a plus de candidat.
Elle n'a plus de candidat. Elle a pas eu. Non, c'est pas qu'elle n'a plus beaucoup. Elle n'a eu aucun poids. Puisqu'elle a perdu cette légitimité politique et cette légitimité d'autorité sur la gauche à Paris, elle n'a aucun candidat qui se présente à Paris. Y compris la candidate dissidente du 20e arrondissement, elle n'est pas allée la soutenir. Elle ne la soutient pas. Et donc, on ne l'entend pas du tout sur les candidats à Paris. C'est pour ça que moi, je préviens les Parisiens. Parce que les candidats de gauche qui sont présents à Paris, ce sont pour l'essentiel des candidats qui veulent la destruction, qui veulent la révolution, qui veulent l'anarchie, qui ne veulent pas construire Paris. C'est pour ça que j'alerte les électeurs d'être mobilisés les deux dimanches des élections législatives.
Mais en cas de deuxième tour, par exemple, pour le député de votre circonscription, éliminer le candidat LR, éliminé au premier tour. Au deuxième tour, il y a un candidat NUPES et un candidat La République En Marche, Renaissance, et majorité présidentielle. Vous faites quoi, Rachida Dati ?
Madame Lemoine, et si en septembre, vous n'êtes plus là, est-ce que je vais encore regarder ? C'est à vous.
Ben, j'espère bien que oui.
Ben, je ne fais pas de la fiction parce que je pense que vous serez encore là. Et donc, je ne fais pas de fiction. Voilà. Moi, les élections, c'est trop sérieux. Moi, j'ai trop de respect pour les gens. Et ben, on va voir dimanche et je vous dirai lundi. Voilà.
Lundi, une question de papier.
Celle qui sera encore là en septembre et même au-delà, jusqu'en 2026, c'est Anne Hidalgo. Il
n'y
a aucune raison qu'elle quitte son fauteuil, a priori.
Pas du contraire.
Mais vous allez maintenir pendant 4 ans cette ambiance de guérilla permanente contre elle et son exécutif ?
Monsieur Cohen,
oui.
Elle n'a pas de majorité au Conseil de Paris. Parce que là, ce que vous montrez, c'est très anecdotique ce qu'on voit. Parce que quand vous avez 4 jours de Conseil de Paris, vous croyez que c'est de la guérilla ? On se bat. On se bat contre des projets de destruction, de bétonisation, de dégradation du cadre de vie des Parisiens. On se bat contre tous ces projets qui sont décidés de manière autoritaire. Oui. Et donc, par exemple, aujourd'hui, c'est vrai que sa majorité a explosé le lendemain de l'élection. Il ne nous a pas échappé que nous sommes majoritaires en voix à Paris. Ça n'était pas arrivé pour la droite depuis 2001. Il est majoritaire en nombre d'élus. Et donc, un attelage lui a permis d'être maire de Paris. Donc cet attelage explose à chaque Conseil de Paris.
Vous êtes majoritaire en voix. Non, la gauche a eu plus
non, non,
de
non,
voix
non.
que vous.
En 2001, depuis 2001, c'est la première fois que la droite est majoritaire en voix à Paris.
La gauche a eu plus de voix aux dernières élections municipales
que
vous.
Sur l'attelage, avec
oui.
un attelage.
Ah oui, oui.
Ah bah oui, mais oui, c'est Madame Hidalgo. Moi, je me suis présentée sur mon nom avec mon équipe. La République En Marche a souhaité la réélection de Madame Hidalgo.
Oui, oui.
Donc, s'il n'y avait pas eu La République En Marche, nous aurions été, évidemment, maire de Paris sur mon nom.
Avec les écologistes et les communistes, il y a eu...
Ah, bah, bien sûr, mais c'est des attelages qui ne tiennent pas. Oui, mais qui ne tiennent pas. La police municipale n'aurait jamais été adoptée. Regardez, sur la fermeture des 7 premiers arrondissements de Paris, la circulation, pour l'instant, ça ne marche pas. Regardez toutes les oppositions. C'est-à-dire que Madame Hidalgo veut de la bétonisation, les Verts n'en veulent pas. Donc c'est des combats et des permanents au Conseil de Paris. Ça, vous ne les voyez pas. Ce qui vous intéresse, c'est notre combat, nous. Mais moi, ça m'intéresse que vous me regardiez. Je suis très intéressée que vous me regardiez, M. Cohen.
Oui.
Voilà.
La police municipale que vous voulez armer. On le rappelle, samedi, une passagère a été tuée lors d'un contrôle de police. Sa famille a décidé de porter plainte contre le conducteur du véhicule, mais aussi contre X. Les 3 policiers mis en cause ont été gardés à vue, puis libérés sans poursuite judiciaire. En tout cas jusque-là, mais avec l'ouverture d'une information judiciaire, est-ce qu'il ne faut pas tout de même revoir les règles en cas de refus d'obtempérer ? Il y a eu 4 morts, Rachida Dati, depuis le début de l'année dans ce type de contrôle.
D'abord, le premier constat. Alors moi, d'abord, j'ai une pensée pour cette tragédie de cette jeune femme qui est décédée. Enfin, en plus, il sortait d'une soirée. Enfin, ça peut arriver aux enfants de chacun ou chacune d'entre nous. Premier constat, c'est qu'on est dans une augmentation de la violence à tous les niveaux dans la société et dans tous les secteurs. Regardez l'école, tous les secteurs. Regardez les hôpitaux, partout. On a une augmentation très exponentielle de la violence. Et donc, sur ce sujet, on a un sujet de formation des policiers. On change des législations et, pour l'adapter à ces nouvelles formes de délinquance. Mais est-ce qu'on a le temps de former les policiers ? Regardez tous les policiers qui ont été mis en cause dans les refus d'obtempérer ou dans des rodéos ou quand ça s'est mal passé. Ils sont très jeunes. Sont très jeunes. Et donc, il y a un sujet de formation. Pourquoi ? Parce que la formation, elle est liée à la maîtrise de soi, elle est à la mise en situation. Mmh. Et moi, j'ai pu voir ça. Et donc, quand vous avez évidemment un sujet de formation vis-à-vis des policiers, il faut en tenir compte. Aujourd'hui, on commente M. Mélenchon. Moi, je voudrais commenter justement ce qui est nécessaire pour rétablir la sécurité. Autre chose, on fait un déni, moi, je pense, sur la délinquance. On fait un déni. Je vous parlais tout à l'heure de Paris, qui est le département le plus criminogène de la France, une métropolitaine. quotidienne. Qu'est-ce qu'on fait? Rien, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Champ de Mars est devenu un lieu de fixation. Ça augmente, et on ne fait rien là-dessus. Regardez sur le Stade de France. Je résume la politique de sécurité de ce gouvernement, qui a été résumée par la porte-parole. Elle dit, est-ce qu'on peut mieux faire sur la politique de sécurité? Oui. Est-ce qu'il y a eu des morts? Non. Voilà la politique de sécurité de ce gouvernement. Mais c'est très amateur. Et aujourd'hui, sur le Stade de France, on fait comme si on a fait un déni de délinquance. Mais il faut... Il y a deux choses sur la délinquance. Il y a un sujet sur la baisse de la crédibilité de la sanction et de la peine, et une impunité totale. Donc on a un problème de politique pénale à articuler avec la sécurité. Et de la même manière, sur le Stade de France, on fait un déni sur la nature de la délinquance. Je ne crois pas que ce soit les supporters anglais qui ont volé les portables des supporters espagnols. Je ne crois pas. Donc, on fait comme si tout ça n'existait pas. Et donc, la délinquance continue de prospérer. La politique pénale ne suit pas. Et donc, on est dans une impunité totale. Les drames de l'impunité, on en a tous les jours.
Vous restez avec nous, Rachida Dati, le temps d'évoquer la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, vous revenez sur une séquence qui a marqué les auditeurs de France Bleu hier.
Oui, Elisabeth Borne répondait aux questions des auditeurs de France Bleu. Parmi les auditrices, une femme de 56 ans. Dolores demande à la Première ministre si l'État compte faire quelque chose pour les personnes handicapées.
Dans la mesure où mon époux touche 1810 euros par mois, malgré qu'on ait un loyer de 1000 euros sur Nice, on me dit que j'ai droit à rien parce qu'on déplace les plafonds à tous les deux.
En tant que personne handicapée, vous avez droit à des aides pour votre vie courante, pour que vous puissiez continuer à vivre normalement, à vous déplacer par exemple. Ensuite, il y a la façon dont on peut vous accompagner pour que vous puissiez peut-être reprendre une activité professionnelle.
Vous savez, quand vous avez mon fauteuil, excusez-moi.
J'entends votre émotion, Dolores.
La réponse de la Première ministre a suscité l'émotion des auditeurs. Toute la classe politique a réagi. Jean-Luc Mélenchon évoque une réponse humiliante. Marine Le Pen, elle, dénonce une réaction glaciale. Encore émue, Dolores a repris la parole ce midi sur France Bleu.
Peut-être que moi aussi, j'ai mal pris la réponse du fait que ce n'était pas ce que j'attendais. Je me suis focalisée, si vous voulez, sur sa réponse quand j'ai entendu « on peut vous aider à chercher du travail ». Or que... quand j'avais cherché du travail, on m'avait fermé les portes parce que j'étais en fauteuil. Et là, j'ai eu très mal. Je me suis sentie, si vous voulez, comme une personne, une tâche pour la société. Et il faut que notre président de la République, il faut que notre gouvernement entende cet appel.
Face à la polémique, Matignon s'est saisi du dossier. Un membre du cabinet de la Première ministre a longuement échangé avec Dolores hier et lui a proposé une rencontre avec Elisabeth Borne, si elle le souhaitait. La Première ministre a accepté de répondre à nos questions en marge d'un déplacement à Versailles cet après-midi. À notre micro, elle reconnaît une maladresse.
Dès lors que ça a blessé Dolores, je regrette forcément la maladresse de mes propos. Évidemment, dans un échange, vous voyez, à la radio, où vous ne mesurez pas forcément la situation de la personne, mes propos ont clairement été maladroits puisqu'ils ont pu blesser Dolores. Mais je pense que vraiment mon message, et je le passe à Dolores et je le repasse aussi aux personnes handicapées, c'est qu'on est à l'écoute de leurs difficultés et qu'on a bien entendu leurs attentes, notamment sur l'allocation adulte handicapé.
Aujourd'hui, en France, les revenus du conjoint d'une personne en situation de handicap sont comptabilisés dans le calcul des droits à l'allocation adulte handicapé. Des associations dénoncent cette prise en compte.
Grand chantier à venir, c'est la cinquième branche autonomie. Il y a d'autres enjeux, on vient de l'évoquer, sur les ressources. Aujourd'hui, on est dans un contexte inflationniste. Donc, il va falloir augmenter le pouvoir d'achat des personnes en situation de handicap et aussi de celles qui, aujourd'hui, ne peuvent pas travailler. Il faut une volonté politique et qui se transforme à la fois en actes, mais aussi en moyens financiers supplémentaires. On considère qu'il faut entre 10 et 12 milliards supplémentaires par an.
Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait déclaré que le calcul des droits de l'allocation adulte handicapé créait des situations aberrantes, en ajoutant qu'il fallait bouger sur le sujet. Elisabeth Borne reconnaît qu'il faut aller encore plus loin.
Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on arrive à avoir des situations qui sont un peu absurdes et qui peuvent être très mal vécues par des personnes en situation de handicap. Donc c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Il y a évidemment des prestations compensatoires de handicap qui, pour le coup, ne sont pas sous condition de ressources, mais c'est important qu'on regarde aussi comment on peut mieux accompagner des personnes dans la situation de Dolores.
Est-ce que vous vous êtes fixé un calendrier ?
C'est quelque chose qui pourra être examiné dans les prochains mois, et puis ça doit faire aussi l'objet de concertations.
près d'1 200 000 personnes en France bénéficient de l'allocation adulte handicapé. Rachida Dati, est-ce qu'il faut déconjugaliser cette allocation? C'est la demande des associations.
Enfin, je vais dire, la réponse est dans la question, ne serait-ce que le terme. Enfin, on se bat, c'est une avancée l'autonomie. Et donc, de dire de conjugaliser, ça veut dire que de dépendre de quelqu'un, et en plus, de dépendre de quelqu'un alors qu'on est en situation de handicap malgré nous. Et donc, bien sûr, moi je suis pour... D'ailleurs, on avait proposé, et ça avait été retoqué, c'est-à-dire que le gouvernement Macron n'avait pas souhaité, parce que c'est eux qui n'ont pas souhaité déconjugaliser cette allocation, mais... Il y a deux choses. Chaque situation est particulière. Moi, je vais vous dire, bien sûr, Mme Borne dit que c'est une maladresse, et je veux bien la croire. Moi, je la connais un peu. Et c'est vrai que c'est quelqu'un... Moi, j'ai vu quand elle a été présentée, femme de gauche, elle n'a jamais mené de combat, ni de combat politique, ni de combat militant, ni de combat, j'allais dire, engagé. Et donc, oui, ça a été une préfète, directrice de cabinet, membre de cabinet. Et donc, je pense qu'elle elle a plus réfléchi qu'elle n'a ressenti. Et donc, chaque situation est particulière. Mais moi, je pense que les personnes en situation de handicap, il faut tout faire pour les inclure dans la sphère professionnelle. Vous savez que nombre d'entreprises qui payent des amendes parce qu'ils n'embauchent pas,
payer voilà, des amendes plutôt que d'embaucher
des personnes en situation de handicap. Et donc, mais aussi, l'autre aspect, c'est quand vous avez des gens qui ne sont pas en état de pouvoir être embauchés, de retravailler, il faut l'entendre et le respecter. On avait eu un débat, y compris dans ma famille politique, vous savez, quand on avait dit, oui, au bout de 3 refus d'emploi, terminé, plus d'indemnisation. Et je me disais, mais est-ce que les gens qui pensent comme ça sont déjà passés par là? Vous avez des femmes qui peuvent, pardon de prendre ces situations, parce que c'est assez majoritaire.
C'est Laurent Wauquiez, hein.
Oui, mais, non, mais c'est pour ça que je dis, c'est un débat qu'on a eu dans notre famille politique. Mais quand vous rencontrez des gens, vous avez des femmes, leur mari s'en va, il les laisse avec 3 gamins, elle bosse, elle n'en peut plus, elle est virée de son travail, elle a un genou à terre plus les gamins. Vous croyez que demain, on lui dit, tu reprends ce boulot, sinon dans 3 semaines, tu reprends ce boulot, et puis le troisième emploi. Mais elle ne peut pas, elle veut juste déjà relevez-moi, et je prendrai après un autre job. Donc tout ça, c'est aussi du ressenti, c'est du vécu.
Mais en gros, vous lui reprochez d'être technocrate à Elisabeth Borne.
Non, parce que je ne veux pas l'accabler, parce que je pense qu'elle est sincère. Je dis simplement que quand vous faites de la politique, attention, c'est pas un QCM. La question de cette dame, c'était pas répondre oui ou non. Donc voilà, on aboutit à une maladresse.
Merci beaucoup, Rachida Dati, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et puis rendez-vous donc au soir, lundi, pour commenter les résultats du premier tour. Pour voir si
septembre.
Vous avez planté des choux ou pas. Voilà. Et rendez-vous en septembre. Merci de votre visite.
Merci.
Merci, Mohamed. Ne pas faire campagne, en tout cas le moins possible et le plus tard possible. La stratégie a payé pour les présidentielles et était tentant pour Emmanuel Macron.
C'est là que ça devient intéressant.
De le reproduire partir. Pour les législatives. Mais restez, je vous en prie. Au risque d'une campagne morne, sans souffle, à la merci des polémiques et que le chef de l'État a décidé de réveiller à quelques jours du premier tour avec 2 déplacements la semaine dernière et 2 nouveaux cette semaine. Restez.
Le président de la République est donc de sortie aujourd'hui auprès du personnel hospitalier du côté de Cherbourg.
Oui, ma conviction, c'est qu'il faut aussi faire à partir du terrain.
On va prendre la direction de Marseille pour retrouver le président de la République qui se livre, comme vous le voyez, à un bain de foule.
Cet après-midi, le président Macron fait un déplacement en Ile-de-France.
Je pense que les Françaises et les Français, dimanche suivant, seront donnés une majorité au projet que je porte.
Le président qui met ses dernières forces dans la bataille avant le premier tour des législatives.
Le président de la République était sur le terrain aujourd'hui. Il a eu droit à une démonstration de breakdance.
On a un embryon de campagne, une petite campagne qui a commencé depuis 48 heures.
Agathe Lambret, Louis Osalter, bonsoir à tous les deux journalistes politiques respectivement à BFM TV. Marianne, vous co-signez l'étrange victoire Macron de l'histoire secrète, disponible depuis aujourd'hui aux éditions L'Observatoire. Quand Emmanuel Macron va sur le terrain, dans la dernière ligne droite, c'est que rien n'est gagné, qu'il n'est pas serein, qu'il est fébrile.
Bah, en tout cas, il y a un changement de rythme, c'est très clair. Emmanuel Macron pensait certainement enjamber cette campagne des législatives comme il avait tenté d'enjamber à un moment l'élection présidentielle. Sauf qu'à la présidentielle, ça a plutôt marché. Emmanuel Macron, au premier tour, a même augmenté son score par rapport à 2017. Mais aujourd'hui, depuis quelques jours, c'est vrai que les sondages sont de plus en plus mauvais. Et cela inquiète un petit peu, au point qu'Emmanuel Macron, oui, reprend un peu la main après s'être laissé un peu submerger par les polémiques depuis un mois. Et il faut dire quand même, il avait disparu du terrain depuis un mois, disparu de la scène nationale, Emmanuel Macron, jusqu'à la semaine dernière. Mmh. Et là, il revient.
Inquiet sur sa capacité à gouverner s'il n'obtient pas la majorité absolue aux législatives. Et cette inquiétude-là, elle la hante depuis un certain temps, elle la préoccupe depuis longtemps.
Oui, et puis l'histoire se répète un peu, en fait, parce que pendant sa campagne présidentielle, on raconte dans le livre les hésitations des proches d'Emmanuel Macron, qui il y a eu beaucoup de tensions entre eux, sur le fait même de faire vraiment campagne. C'est-à-dire, est-ce qu'il devait prendre des risques, aller sur le terrain, ou plutôt simplement dérouler son programme, ne pas trop en faire, sachant qu'il était le grand favori et qu'aucun sondage n'a jamais donné quelqu'un d'autre que lui gagnant de cette élection présidentielle. Et donc, toutes ces tensions-là qu'on raconte dans le livre, qui ont perlé toute la campagne, campagne en plus perturbée, d'abord par le Covid et ensuite, évidemment, par la guerre en Ukraine, en fait, on en retrouve un écho aujourd'hui avec ces hésitations à 10 jours des élections législatives. Est-ce que le chef doit aller sur le terrain, prendre des risques et mouiller le maillot, ou est-ce qu'il doit enjamber, comme le disait Agathe, sachant qu'il est favori?
Ces hésitations-là, elles datent de février-mars, à peu près. Avant 24 février, c'était le déclenchement de la guerre en Ukraine. Est-ce que l'histoire de cette campagne eût pu être complètement différente s'il n'y avait pas eu l'offensive de Poutine ?
On nous promettait en tout cas une campagne très différente. On nous disait, moi je me souviens très bien dans l'entourage du président, avant que la guerre éclate, quand on n'avait aucune idée de la façon dont les choses allaient tourner, on nous disait, vous allez voir, on va bombarder, ça va être très très fort, il sera tout le temps sur le terrain, ça va être énorme. Et en fait, pas du tout. Alors, ce qui était clair, c'est qu'Emmanuel Macron ne voulait pas se déclarer trop tôt. D'ailleurs, que dans la moyenne de tous ses prédécesseurs sous la Ve République, je crois que c'est entre 33 jours et 69 jours avant le premier tour de la présidentielle pour une déclaration. Lui, il l'a fait à 37. Il avait prévu de toute façon de le faire tard. Mais disons que la guerre a en tout cas principalement changé la tonalité. On a eu une campagne beaucoup plus grave.
Il a prévu de faire sa déclaration à Cotteret, dans les Pyrénées.
Oui,
à
Argelès. Oui, dans les Hautes-Pyrénées, exactement. Et c'est un chapitre qui s'appelle le plan A, qu'on a mis au début de l'ouvrage, juste avant celui sur cette déflagration de la guerre en Ukraine, qui fait exploser en fait tout ce dispositif qui avait été bâti par ses équipes et qui a effectivement complètement changé la tonalité de la campagne, sur la forme et sur le fond aussi.
À venir, là, une réforme qui sera symbolique autant que risquée, la réforme des retraites, un sujet qui divise, vous le racontez très bien, au sein de l'entourage du président. D'un côté, les technos qui sont favorables à la retraite à 65 ans et de l'autre, les élus de terrain, François Bayrou en tête, qui n'a pas caché son opposition, on s'en souvient.
C'est une réforme non pas pour un gouvernement, mais pour les Français. Parce que c'est les Français qui sont à la retraite.
Et qui payent.
Et c'est pour eux que la réforme est faite. Et qui payent, et c'est pour eux que la réforme est faite. Eh bien, il est légitime, si on est en situation de blocage, de leur remettre le choix. Et moi, je ne doute pas que ce choix ira dans le sens de l'équilibre. Et donc, j'ai toujours défendu cette idée du référendum. Je ne dis pas que c'est une idée majoritaire. Elle ne l'est pas.
François Bayrou, que vous rangez dans le clan des grognards et qui estime qu'Emmanuel Macron a fait une mauvaise campagne à cause des technos, justement, ce clan des technos.
Grognard, grognon.
Ce sont les rivalités qui ont rythmé toute la campagne. François Bayrou, il y a une anecdote qu'on raconte dans le livre, c'est au moment, vous vous en souvenez sûrement, où les échos révèle la mesure retraite d'Emmanuel Macron.
En c'était le 9 65 mars
ans. Exactement. Et en fait, François Bayrou fait partie de ceux, pourtant confident d'Emmanuel Macron, confident régulier du président, il fait partie de ceux qui découvrent dans les échos à ce moment-là que ce sera cet arbitrage-là et que ce sera la retraite à 65 ans. Lui, il n'était pas très favorable à l'idée et puis il n'était pas du tout favorable au fait de le dire comme ça et de le mettre en œuvre comme cela. Et ce genre de tension entre d'un côté ces grognards politiques, madrés, élus de terrain, et ces technos représentés avant tout par Alexis Kohler, le fameux secrétaire général de l'Élysée, qui était accusé de vouloir mettre sa patte sur toute la campagne. En fait, elles ont rythmé la campagne d'Emmanuel Macron. On a eu l'impression un peu d'une non-campagne parce que d'autres sujets l'ont brouillé, mais quand on cherche, qu'on fouille comment ça s'est passé réellement, c'était très tendu du début à la fin.
Il y a une campagne en interne entre quatre Exactement. Clans, les technos, les grognards, mais aussi les scénaristes
oui.
et les jeunes loups, que des hommes, entre parenthèses. Oui. Des cercles qui, racontez-vous, sont aussi le rançon de la liberté d'Emmanuel Macron.
Oui, en fait, c'est un proche du président qui nous a dit ça. cliver, diviser, c'est la rançon de la liberté pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est obsédé par le fait de rester libre malgré le fait d'être enfermé dans le palais présidentiel. Et donc pour lui, sa liberté, eh bien, elle est aussi le résultat de différents clans autour de lui qui ne communiquent pas entre eux, qui ne s'entendent pas entre eux, parce que comme ça, eh bien, il ne dépend pas d'un clan, il ne dépend pas d'une personne. Il est libre, il peut choisir et surtout, il peut aussi choisir la meilleure option. On sait qu'Emmanuel Macron est très attaché, il prend toujours son temps. On raconte notamment dans le livre cette anecdote des conseillers d'Emmanuel Macron avant d'aller en réunion à l'Élysée. Parfois, ils se sondent entre eux, ils se concertent quand il y a un sujet important. Ils se disent, c'est quoi ta solution? Qu'est-ce que tu vas dire au président? Tu vas dire ça? Et si l'autre a la même idée, eh ben, ils vont faire exprès de changer de version, quitte d'ailleurs à se renier un peu, mais tout simplement pour venir devant Emmanuel Macron avec deux options différentes. Voilà. Emmanuel Macron aime les avis différents, il en fait son miel et ensuite il décide.
Il y a un homme que vous identifiez qui pourrait troubler ce mandat, c'est Édouard Philippe. On connaissait effectivement les relations tendues entre les deux hommes, mais vous expliquez avec beaucoup de détails et d'éléments que le président redoute que son ancien Premier ministre l'empêche de faire des réformes.
Et il l'a redouté, en fait. C'est-à-dire que quand on se replonge dans la relation entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, quand Emmanuel Macron se sépare de son Premier ministre à l'été 2020, d'abord, c'est une surprise pour Philippe. On a eu plusieurs de ses proches qui vraiment, avaient eu Philippe les jours avant et ils s'attendaient à rester à Matignon. Ils pensaient que c'était gagné. Emmanuel Macron a endormi sa méfiance. Et la deuxième chose, c'est qu'on a senti un président libéré quand il a congédié Édouard Philippe, mais aussi son entourage, c'est-à-dire une bande de techno, pour reprendre le terme, qui, pour Emmanuel Macron, l'empêchait de mettre en place la nouvelle méthode, le fameux acte 2 qu'il voulait mettre en œuvre après les Gilets jaunes. Emmanuel Macron se plaignait de ce que ça ne changeait pas, le comportement du gouvernement ne changeait pas, ses directives n'étaient pas appliquées. Donc, il a congédié Édouard Philippe. Et ça, c'est une histoire qui s'est poursuivie pendant la campagne. Il y a eu ce jeu de cache-cache entre Emmanuel Macron et son ancien Premier ministre, qui, à mon avis, va se poursuivre dans les mois et les années qui viennent.
Et on cite aussi un proche du président qui nous dit qu'Emmanuel Macron, à cette époque, avec Édouard Philippe à Matignon, s'est senti dépossédé du pouvoir. Mmh. Et c'est quand même une phrase extrêmement forte, sachant qu'en plus, on parle d'un président aussi omniprésent et omniprésident qu'Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'il s'est senti paralysé, empêché. Il a ressenti aussi une injustice parce qu'Édouard Philippe a insisté sur certains points auxquels Emmanuel Macron, lui, ne tenait pas vraiment, les 80 km/h, la taxe carbone. Et à chaque fois, Emmanuel Macron a l'impression que les choses lui sont retombées dessus et pas sur Édouard Philippe. Et donc, on raconte aussi dans le livre que quand Édouard Philippe était encore à Matignon, quand officiellement tout se passait bien et qu'Édouard Philippe répétait dans les médias qu'il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette entre lui et le président, en réalité, en coulisses, Emmanuel Macron envoyait des émissaires pour sonder d'autres personnes. Il pensait déjà à le remplacer. Et il a notamment envoyé des émissaires pour sonder Valérie Pécresse.
Et Xavier Bertrand.
Et Xavier Bertrand à un autre moment. Voilà, donc c'est vraiment une relation compliquée. Et aujourd'hui, la terreur, l'angoisse d'Emmanuel Macron, c'est qu'Édouard Philippe continue à l'empêcher. D'où l'enjeu pour lui d'avoir une majorité absolue qui ne dépendent pas du petit parti d'Édouard Philippe
Horizon. Voilà.
Au cours du premier quinquennat et encore tout récemment, Emmanuel Macron a pris la parole à plusieurs reprises à Marseille, devant les Marseillais, pour parler de Marseille. Bien sûr, il parlait ex-qualité chef de l'État. Il y avait toujours quelque chose d'assez affectueux.
Ici, c'est Marseille. Une ville qui fait front et face à des difficultés immenses. Ici, c'est Marseille. Une des villes les plus jeunes de France, où les difficultés sont au cœur du village. Ici, c'est Marseille, et c'est aussi la France. Parce que si nous ne réussissons pas à Marseille, nous ne pourrons pas faire réussir le pays. Or, la France est une chance, et elle doit être une chance pour toutes et tous. Vous avez compris, nous n'avons pas d'autre choix que de réussir. Vive Marseille, vive la République, et vive la France!
Et dans votre livre, vous dites que parmi les gens qui connaissent bien et de près Emmanuel Macron, il y en a qui disent que après la fin de son deuxième mandat, il pourrait être candidat à Marseille, pas en 2026 évidemment, mais en 2032. C'est sérieux ?
C'est une idée qu'il agite depuis même avant qu'il soit président. Et la rumeur, en fait, c'est une rumeur insistante qui court notamment dans des cabinets ministériels, selon laquelle ça ferait partie de la suite du plan de carrière d'Emmanuel Macron. Et on consacre tout un chapitre à cette nébuleuse suite, c'est-à-dire Macron après Macron. Ce sera un très jeune ancien président, le plus jeune qu'on ait jamais connu, sous la Ve République. Je ne dis pas qu'il a la vie devant lui, mais il a une moitié de vie, normalement, devant lui. Donc on passe en revue différentes hypothèses et on a aussi interrogé ses proches sur ce que lui trame. Ça reste pour l'instant assez nébuleux, mais il a plusieurs idées en tête.
Dont Marseille, sa ville de cœur et avec cet accent qui apparaît de façon miraculeuse.
Le Picard qui n'est pas du tout marseillais.
Exactement.
Mais voilà, il s'y est attaché.
On vous recommande l'étrange victoire Macron de l'histoire secrète, signée Louis Osalter, Agathe Lambret. Et il est question de l'après, où Emmanuel Macron parle carrément de cannibalisme, voilà, avec des trahisons qu'il redoute. Lui-même étant un homme de trahison, il sait ce que c'est. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est aux éditions de l'Observatoire. Vous restez avec nous pour le 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Salut Mathieu.
Salut Mathieu.
Un peu plus de deux semaines après la tuerie Duval aux États-Unis, une star américaine se mêle au débat sur les armes à feu.
Matthew McConaughey qui parle de la tuerie qui a fait 21 morts, dont 19 enfants, dans une école au Texas. Acteur oscarisé, Dallas Buyers Club, Interstellar, entre autres. Il se trouve que c'est un enfant d'Uvalde. C'est la ville où il est né.
Uvalde, Texas, is where I was born. It's where my mom taught kindergarten, less than a mile from Robb Elementary. Uvalde is where I learned to master a Daisy BB gun. That took 2 years before I graduated to a 410 shotgun. Uvalde is where I was taught to revere the power and the capability of the tool that we call a gun. Uvalde is where I learned responsible gun ownership.
Alors vous le voyez, il est dans la salle de presse de la Maison Blanche, l'acteur est invité par Joe Biden, et c'est avec son talent d'acteur qu'il a ému en parlant aussi de ses enfants tués, de leur vie, des chaussures qu'ils portaient et de leurs dessins.
Now Lydia, her dream was to go to art school in Paris and one day share her art with the world. It's a self-portrait, all right, of Aletha drawing with her friend in heaven looking down on her drawing the very same picture. Maite wore green high-top Converse with a heart she had hand-drawn on the right toe because they represented her love of nature. These are the same green Converse on her feet that turned out to be the only clear evidence that could identify her after the shooting. How about that?
Un discours parfois très politique aussi de Matthew McConaughey, dont on sait qu'il réfléchit à des suites politiques à sa carrière. Il l'avait confié à cet aveu à l'automne dernier.
Bon, il faut se mettre d'accord. Il faut se mettre d'accord sur le sens même de la démocratie, savoir si le système bipartisan fonctionne toujours dans notre pays. On passe notre temps à disqualifier l'autre avant de se qualifier soi-même, et ça va à l'encontre même de l'esprit démocratique. Je suis quelqu'un qui croit, disons, dans les choix individuels que chacun d'entre nous peut faire pour mieux gérer nos corps, nos esprits, nos santé, nos vies.
Le débat sur les armes à feu qui est clairement relancé aux États-Unis.
Oui, c'est toujours le même débat avec toujours les mêmes blocages. Quoique dans l'État de New York, où 10 jours avant Uvalde était perpétrée la tuerie raciste de Buffalo, on vient de prendre de nouvelles mesures de restriction.
Tightening the red flag laws to keep guns away from dangerous people. And we're raising the age of semi-automatic weapons so no 18-year-old can walk in on their birthday and walk out with an AR-15. Those days are over. Those days are over.
Un permis de port d'armes avec contrôle d'antécédents, des restrictions pour l'achat de certains matériels comme les gilets pare-balles, un âge palier de 21 ans pour l'achat d'un fusil semi-automatique, mesure prise dans 6 autres États américains, des réglementations que le président Biden appelle de ses voeux. Et dans le même temps, on apprend aussi que le gouvernement fédéral américain craint des répliques chez les suprémacistes blancs en particulier. Un effet d'imitation, disent certains experts, que ces tueries ne fassent des émules. La réalité, c'est que c'est déjà le cas. Depuis l'attentat de Buffalo, il y a moins d'un mois, nous avons compilé non moins d'une cinquantaine de fusillades du genre, des tueries de masse sur le territoire américain. C'est assez impressionnant depuis moins d'un mois. Hein. Rien de comparable avec les bilans américains, heureusement, mais faut-il craindre que ces tueries de suprémacistes blancs fassent des émules chez nous? Le Parisien révélait samedi l'interpellation par la DGSI d'un jeune homme de 20 ans, néo-nazi revendiqué, qui se faisait appeler Heinrich Himmler 88. La 8e lettre de l'alphabet étant le H, 88, ça fait Heil Hitler. Il est soupçonné d'avoir préparé un projet d'action violente, de massacre à l'arme à feu. Le renseignement parle de projet de tuerie dans un lycée ou d'attaque contre la communauté juive ou des populations étrangères.
Les jeunes femmes prennent de moins en moins la pilule.
C'est un totem des luttes féministes du XXe siècle, la pilule qui reste le moyen de contraception le plus utilisé par les jeunes femmes de 15 à 24 ans qui, néanmoins, sont de plus en plus soucieuses des effets secondaires induits par cette prise médicamenteuse. Selon un sondage BVA pour un laboratoire pharmaceutique producteur de pilules, elles ne sont plus que 44% à l'utiliser comme moyen de contraception. Chute vertigineuse, elles étaient 60% en 2016 encore. Louis Amar et Camille Schmitt ont rencontré la directrice du planning familial.
Toutes les méthodes de contraception ne sont pas d'efficacité équivalente, mais toutes les personnes n'ont pas le même degré d'inquiétude. Donc, il y a des personnes pour qui on va vous dire que la pilule est extrêmement efficace. Oui, elle est extrêmement efficace quand elle est prise tous les jours. Donc, moi, par exemple, je ne pourrais pas prendre un cachet tous les jours sans l'oublier à un moment ou à un autre. Il y a des méthodes qui sont effectivement nettement moins efficaces quand on les prend dans une utilisation de la vie courante. Mais il y a des personnes qui disent « moi, ça ne me dérange pas ».
Ce sont des personnes qui sont prêtes à prendre le risque, entre guillemets, hein, le mot n'est pas beau, mais de tomber enceinte.
Oui, d'une grossesse non désirée, peut-être d'une grossesse surprise, parce que voilà, ça c'est pas très grave. Peut-être le risque, si on peut dire comme ça, d'un avortement, parce que ça non plus, ce n'est pas un acte qui est très grave pour la santé.
Les jeunes femmes en question, nous les avons sondées pour savoir leur regard sur la pilule et, le cas échéant, pourquoi elles s'en détournent.
La pilule, ça va faire 2 ans maintenant.
La pilule contraceptive.
J'ai commencé à prendre la pilule, j'avais 14 ans.
C'est une habitude que j'ai prise et grâce à la pilule, mes cycles menstruels se sont réglés parce qu'avant c'était déréglé.
C'était parfois embêtant de se dire qu'on prend quelque chose qui peut potentiellement être mauvais pour nous et qu'il n'y a pas vraiment plus de recherche qui est faite pour des moyens de contraception pour les hommes.
Je n'en ai plus pour l'instant.
J'utilise des préservatifs.
Ça fait 2 ans et demi que j'utilise l'implant.
Ça avait beaucoup trop d'effets sur moi, du coup j'ai arrêté.
J'avais pas envie de prendre du poids, j'avais pas envie d'avoir des boutons.
Moi je cherchais des trucs plus nature, plus sains.
Je voulais pas prendre, pas mettre de substances dans mon corps, du coup je voulais pas prendre la pilule.
44% des femmes de 15 à 24 ans utilisent la pilule en premier choix, pilule qui devance le préservatif, le stérilet ou l'implant. Avec le planning familial, nous avons parlé de ces alternatives.
Un patch ici, en fait, c'est comme le patch nicotinique pour cesser de fumer. Et l'anneau, en fait, qui lui s'insère dans le vagin, il change tous les mois. Et donc, c'est deux méthodes hormonales qui fonctionnent plutôt bien, qui ont pour seul souci de ne pas être remboursé par la sécurité sociale. Le stérilet au cuivre, alors ici, ça c'est une représentation de l'utérus et c'est vraiment réellement petit comme ça. Il y a aussi une méthode hormonale et avec ça, on est tranquille entre 3 et 5 ans. Alors, dernière méthode hormonale qui fonctionne très bien, on le voit en fait, il y a un report des jeunes femmes de 15 à 19 ans vers cette méthode-là, c'est l'implant. C'est un petit bout de plastique en fait qui libère des hormones que de la progestérone et qui s'implante dans le bras, ici. En fait, ça ne se voit pas du tout et puis ça dure 3 ans surtout.
À noter toutefois, cette étude nous révèle également que 56% des femmes sondées souhaiteraient recevoir davantage d'informations au sujet de la contraception.
Une image pour terminer, il s'agit d'un chien.
Oui, enfin, il s'appelle Toko-san, c'est un japonais qui rêvait. Un japonais qui rêvait d'être un animal qui est allé au bout de ses rêves, il s'est transformé en chien. Regardez, voilà. C'est illustré dans une vidéo devenue virale au Japon. Costume ultra réaliste qui lui a coûté l'équivalent de 14 000 euros.
Il joue au ping-pong.
Il a fait appel à une société spécialisée dans le cinéma. On parle de 40 jours de travail pour se transformer en lassie chien fidèle. L'histoire ne me dit pas s'il faut le promener et combien de fois par jour.
Non, mais si,
après, c'est... je suis surpris qu'il se déguise en chien pour faire des trucs d'humain, mais ça, c'est...
Oui, quel est l'intérêt?
Aucun, je pense.
Mais un chien qui joue au ping-pong, ça valait le coup de terminer.
Tu as raison, c'est Didier.
Ouais, Didier, t'es mieux...
Il était plus crédible. Sans... Ah bah alors, Patrick qui fait le chien, on ne fera pas mieux pour conclure cette émission. Merci beaucoup à Agathe Lompré, Louis aux Alteurs, L'étrange victoire. C'est aux éditions L'Observatoire. Dans un instant, nos invités... Deux incroyables guitaristes, Mathieu Chédid et Gail Anne Dorsey. Ils sont ensemble sur un album et sur scène. Julie Gaillet sera également nos invités. A tout de suite pour la deuxième partie de C'est à vous. On vous attend.